Allô, Denis ?
Oui.
Oui, bonjour Denis, comment vas-tu ?
Ça va bien, merci.
Ça va. Donc on a parlé de toi, c'est plusieurs fois parlé de toi ces dernières semaines, et je suis très content qu'on t'ait directement au téléphone.
Oui.
Hein, puisque tu étais... Il y a eu ton procès la semaine dernière, dont on a parlé abondamment, hein, le procès de la solidarité.
Oui, 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 mercredi dernier.
Oui.
Et qui s'est terminé donc par un non-lieu.
Oui.
Prononcé par le procureur de Perpignan lui-même.
Oui. Procès de la solidarité.
Oui.
Oui.
Et c'était présenté comme ça.
Ouais.
Et effectivement, parce que donc le procès c'était un procès parce que j'avais hébergé donc une famille de personnes sans papier.
Alors, si tu peux parler un peu plus fort, parce qu'on t'entend très mal.
D'accord. Oui, je disais donc qu'il y avait eu procès parce que j'avais hébergé une famille sans papier.
Ouais.
Et heureusement, sur Perpignan, donc, tout un collectif d'associations a profité de l'occasion pour crier haut et fort donc l'indignation qu'il y avait par rapport à ça.
Ouais. Et si on revient sur les raisons pour lesquelles tu es passé en procès, c'est tout à fait intéressant, parce que quand on a parlé d'abolition du délit de solidarité, sauf que la solidarité n'a jamais été un délit, que le délit, c'est l'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire, bon, oui, le délit, c'était ça.
Ouais.
Le fait de faire rentrer des personnes et de profiter de ces personnes dans un but lucratif.
Ouais.
Voilà. Par contre, donc, cette loi avait été modifiée parce qu'elle ne traitait que des cas extrêmes. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui hébergent les sans-papiers et donc qui font ça de façon solidaire et absolument pas pour profiter d'eux. Et donc, ils ne rentraient pas dans le cadre de la loi. Et la loi avait été modifiée en fin 2012, début 2013.
Ouais, c'était en fait, je crois, le 12 janvier 2013.
Oui, oui, qu'elle a été donc officialisée. Oui. Et donc, ce n'est plus un délit.
Ouais. Bon,
par contre, je n'ai pas trop compris, moi, en ce qui me concerne, pourquoi j'ai été arrêté. C'est-à-dire que la police ne devait pas connaître cette mise à jour de la loi.
Ouais.
Et le représentant donc, du procureur, qui m'a inculpé, donc, ne devait pas connaître non plus cette modification de la loi.
Ouais.
Donc, j'ai été étonné, et donc, je n'ai eu aucun souci par la suite, enfin, je n'avais aucune crainte, c'est-à-dire que moi, j'étais sûr de mon bon droit d'une part, mais en plus, donc, que l'affaire allait s'arrêter là. Mais comme le collectif des sans-papiers m'a bien soutenu dans cette affaire-là, donc, beaucoup d'autres associations ont été prévenues, des pétitions ont été signées, des interventions à la radio ou dans les journaux ou même à la télévision donc ont été faites. Et donc, les informations sont remontées très loin. Tant mieux, donc il y a eu beaucoup d'informations diffusées sur cette affaire.
Et tu as quand même fait 36 heures de garde à vue, c'est pas rien ça.
Oui, oh, oui, oui, c'est pas rien, mais c'est pas le plus grave. C'est incroyable, mais nous ne risquons rien du tout. Nous risquons 36 heures de garde à vue, nous risquons éventuellement un procès, des petites choses comme ça, mais notre vie est assurée, on n'a aucun souci. Le souci, il est plutôt pour les gens qui viennent de loin, qui ont donc délaissé leur pays, leur culture, leur famille, leur travail... leurs habitudes et pour fuir dans un pays et rechercher un pays d'accueil, ça c'est difficile, ça c'est un choix de vie, une modification de la vie très importante. Alors quand ces personnes se retrouvent avec une obligation de retourner dans leur pays d'origine, là c'est terrible, selon le cas, au mieux, ça peut être retourné dans un pays donc où il faudra tout recommencer à zéro. Mais au pire, ça peut être retourné dans un pays où il y aura des persécutions donc qui suivront ce retour. Et bon, c'est presque, je dirais presque de l'assassinat ou de la mise à mort, quoi.
Bah, dans certains cas, ça n'est pas presque de l'assassinat ou de la mise à mort, c'est de l'assassinat ou de la mise à mort. Quand on pense par exemple aux Érythréens qui sont renvoyés en Érythrée, c'est très rare, mais ça arrive. Eh bien, un Érythréen qui est renvoyé en Érythrée disparaît.
Oui.
On ne sait pas s'il est mort, s'il n'est pas mort. Il disparaît.
Il n'y a plus de nouvelles. Bon, là, c'est... Donc, là, on peut s'inquiéter effectivement sur les risques qu'il peut y avoir. Bon, nous, ici en France, on est dans une sécurité extrêmement... Enfin, on est tranquille. Bon, par contre, le fait d'intimider effectivement les associations qui s'occupent des sans-papiers, là, c'est grave et on est dans un pays démocratique dans lequel on peut essayer de faire... d'empêcher justement ce genre d'intimidation par l'ordre, par la loi, par la police.
Ouais.
Et l'avocat qui aurait bien voulu s'exprimer, mais qui n'a pas pu le faire puisque le procureur a déclaré un non-lieu sur ce procès, donc qui n'a pas eu lieu. L'avocat justement voulait, c'était Maître Codoniès, voulait... justement mettre en évidence que c'est une intimidation auprès des associations et donc les empêcher d'agir ou les intimider, leur faire peur d'agir et de diminuer leur action. Et donc il ne faut pas avoir peur. Les associations ne doivent pas avoir peur et continuer tout le travail qu'elles font. Et c'est énorme. Et il est utile à tous les niveaux, à ceux qui font les discours, mais aussi à ceux qui aident dans les cours d'alphabétisation, ceux qui aident dans la rédaction des papiers administratifs, ceux qui aident à tous les niveaux. Tout le monde est utile et effectivement, il faut arrêter cette intimidation. Là, je pense que sur Perpignan, le résultat a été positif. Dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a eu une information qui a été très bien répartie à travers la France et qui met en évidence justement qu'il y a eu abus de la part de l'État ou de la justice, je ne sais pas, mais il y a eu abus.
Il y a eu abus et je crois qu'on a essayé de retenir contre toi le fait que tu tirais avantage de ces personnes en les faisant travailler, en les faisant penser ce qu'on a essayé de retenir. En fait, je crois que vous partagiez un quotidien où chacun fait la vaisselle, quoi. C'était
voilà, partageait un quotidien et donc à tour de rôle et spontanément. Et je veux dire, il n'y a jamais eu de on n'a pas planifié les choses. C'est chacun son tour ou chacun quand il peut. Donc il n'y a pas eu, bien sûr, de
voilà.
Profit. Je sais pas. C'est un peu comme quand on passe des vacances avec des amis. Eh bien, tout le monde ne fait pas la vaisselle en même temps. Donc il y en a éventuellement même qui la font plus que d'autres ou le ménage plus que d'autres. Voilà. Bon, là aussi, malgré tout, c'est un petit souci par rapport aux soucis qu'ont les personnes sans papier elles-mêmes. Je pense pas qu'il y ait lieu de s'apitoyer un petit peu sur ce qui a été subi par les personnes qui hébergent ou par moi en l'occurrence, puisque c'est anecdotique et ça n'ira pas bien loin de toute façon. C'est toujours par contre mettre en évidence l'immense difficulté qu'il y a pour les personnes sans papier. Justement, avant cette émission, je regardais un petit peu les articles ou les émissions que vous proposez et qui mettent toujours en évidence ceci les difficultés que les sans-papiers rencontrent et la difficulté extrême qui est l'application de l'OQTF et le départ en avion vers les pays d'origine. Et ça, c'est un drame.
D'ailleurs, D'ailleurs, très souvent, les députés... Oui,
ouais, monsieur, moi, j'aimerais juste vous demander la personne qui était hébergée, elle est où aujourd'hui?
Alors, cette personne, donc, est hébergée, est en résidence, assignée à résidence dans un hôtel de Perpignan, près de la gare. Okay. Alors, elle peut circuler toute la journée, mais le soir, elle doit se rendre à l'hôtel. Alors, pendant les journées, donc, elle passe son temps chez des amis ou bien à la maison, toujours, puisque là, il n'y a pas d'interdiction. Mais le soir, elle doit retourner chez elle, à l'hôtel.
Ah, d'accord.
Excusez-moi, le monsieur qui était arrêté, il était sans papier ou il était demandeur d'asile?
Il était demandeur d'asile. Donc, ils avaient fait tout le circuit habituel, dont je n'ai plus les étapes en tête, hein, mais il y a une première demande qui peut être rejetée, et donc il y a une deuxième demande qui est en route. Bon, et ça va, et jusqu'à donc dans ces circonstances-là, quand on est en demande d'asile, l'État français s'occupe de ces personnes,
oui.
Et les héberge à travers des associations de l'État, comme à Perpignan, c'est le Seuil,
oui.
Par exemple. Mais quand tous les recours ont été épuisés,
oui.
Qu'il ne reste plus que l'ultime recours qui est CNDA,
oui.
Si je me trompe.
Non, c'est ça, c'est donc première marche, c'est la demande d'asile auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. À ce moment-là, on est logé en CADA ou dans une association, par une association qui va loger le demandeur d'asile si ce n'est pas directement un CADA. Puis, si on est débouté, donc on redépose une demande ou on conteste auprès de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA.
Oui.
Voilà, non, c'était pour préciser le parcours.
Vous avez raison. Oh. Et dans ce dernier cas, donc, là, par contre, il n'y a plus d'hébergement donné par l'État. Et donc, les personnes se retrouvent à la rue. Et effectivement, enfin, je veux dire, à chaque fois, on se dit, oui, être à la rue, c'est quoi? C'est devoir aller dormir chez des amis, c'est des choses comme ça. Non, c'est pas ça, c'est dormir à la rue sur les bancs publics et ils ne sont même pas, on ne les empêche même pas puisqu'ils sont sans papier et ils sont illégaux, ils sont nulle part, ils n'ont pas de situation civile.
Oui, mais il y a ici dans le studio Issa et Ossin qui sont on pourrait dire des résidents, mais le mot résident n'est pas un bon mot, du camp de Pajol, anciennement de la Chapelle, qui sont ici et qui sont ici pour en parler d'ailleurs.
Oui, oui. Eh bien, justement, oui. Elles pourront donner justement les exemples vécus. Et ce sera intéressant.
D'accord. En fait, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, le genre de demandeurs d'asile qui sont sur Paris là. Il y a certains qui ont des certificats comme quoi ils peuvent dormir même au dehors s'ils n'ont pas eu d'hébergement. Moi, j'ai l'exemple ici qui est signé par le préfet. Ce n'est pas la préfecture de où, mais la personne, il m'avait montré et voilà, j'avais pris la photo. C'est-à-dire que la personne était autorisée de dormir là où il veut au dehors.
Oui, c'est pour montrer un tel, pardonne-moi l'expression, bordel, que on a fait, c'est sur un post-it, hein, c'est une photo qui a pas mal circulé, qui a été prise, je crois, à Lille ou dans le Nord, et donc de quelqu'un qui a un petit post-it qui demande à la police, qui est signé de l'OFPRA avec le tampon et qui demande à la police de laisser cette personne dormir dehors sans l'inquiéter.
D'accord. C'est quand même du mépris, ça. Hein, parce que...
Voilà. Et il y a quelques années, le Conseil constitutionnel avait jugé qu'il était tout à fait possible de laisser dormir des gens, des demandeurs d'asile sous la tente en hiver, que ça ne posait pas de problème.
Ah ouais, c'est super.
Voilà.
J'ai juste une toute petite question sur, puisqu'on est en train de parler de problèmes de loger les réfugiés et tout ça. Puisque toutes les demandeurs d'asile en France... les gens qui veulent faire une demande d'asile, est-ce que l'État français peut leur assumer du logement? c'est une petite question parce qu'il y en a beaucoup de réfugiés qui posent cette question. Et surtout, là, à l'aïeul de Pajol, où il y en a beaucoup là-bas, presque 300.
Oui. Mais... personnellement, je ne connais pas l'organisation juridique, les détails de l'organisation, donc de l'hébergement des sans-papiers.
Alors, en principe, d'abord, un demandeur d'asile n'est pas un sans-papier. On parle de clandestin à propos de demandeur d'asile ou plein de choses comme ça, mais un demandeur d'asile n'a pas à justifier de la façon dont il est entré, parce que quand il faut courir plus vite que la balle qu'on a derrière soi, eh bien, on passe pas à la maison chercher son passeport, sa carte d'identité et son extrait d'acte de naissance. Et ensuite, l'État a obligation d'héberger les demandeurs d'asile dès lors que la demande d'asile a été déposée. C'est la Convention de Genève de 1931. Sauf que ça marche pas, il n'y a pas suffisamment de place dans les CADA et qu'il faut tellement de temps pour demander sa demande d'asile que entre le moment où on arrive, le moment où on voudrait demander sa demande d'asile, enfin, on voudrait déposer sa demande d'asile et le moment où on dépose sa demande d'asile, eh ben, ça met un temps, ça peut mettre plusieurs mois.
Oui.
Et les voilà.
Associations sont en demande de, justement de, en recherche de logement pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans la dernière étape que, quand les gens sont effectivement à la rue, que les associations ont besoin d'endroits pour loger. Mmh. C'est dès le début quand, justement, il y a trop de demandeurs d'asile par rapport au nombre de places disponibles.
Voilà. Et surtout, ce n'est pas qu'il y a trop de demandeurs d'asile, c'est qu'il n'y a pas assez de places disponibles. Il n'y a pas assez de places disponibles en CADA et qu'il y a obligation, c'est une obligation, c'est la Convention de Genève de 1931, d'héberger, de mettre à l'abri, de protéger les personnes qui demandent une protection jusqu'à ce qu'on ait statué sur leur sort.
Oui.
C'est pas... Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup, Denis. Peut-être tu as encore des choses à ajouter ?
Non, je suis très intéressé par tout le travail que chacun fait, le travail que vous faites et la quantité de travail que vous faites.
Ben, merci, mais je crois qu'on travaille tous beaucoup à RESF, d'une part, à FPP de l'autre côté, et dans les différents collectifs de soutien aux sans-papiers, à l'ASTI, on travaille tous ensemble en réseau, et c'est un boulot qui est intéressant. D'ailleurs, je crois qu'il se passe beaucoup de choses à Perpignan, donc au mois de septembre, on va certainement reparler au téléphone de Perpignan.
Oui, ah ben, tant mieux. Alors, on aura peut-être l'occasion de converser encore.
Ben, certainement, très certainement. Voilà, merci beaucoup Denis. C'était donc Denis qui nous appelait de Perpignan. Et je propose avant de passer et au Barra et à Pajol qu'on fasse une petite pause musicale. Alors j'ai prévu là un choriste malien qui s'appelle Toumani Diabaté. Mais c'est un morceau de rock plutôt fort qu'il a fait avec des musiciens argentins. Et c'est un très chouette album qui s'appelle La Curva de Cintura. C'est avec Arnoldo Antunes et Edgar Scandura. Et donc Toumani Diabaté, hein, Señor.
No elevador me chamam de senhor. O garçom me pergunta o que vai querer, senhor. Gosto de ser um senhor. O porteiro abre a porta para um senhor. As pessoas cumprimentam um senhor. Todo mundo respeita um senhor. E tenho muito pouco tempo. E no meu tempo cabe sempre menos tempo. O tempo de um senhor é muito.